C'est aujourd'hui par Adrien Delgrange, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, bonjour à tous. De Port-au-Prince à La Paz, en passant par le quartier de Chinatown à New York. Bienvenue dans votre journal des Américains.
RFI.
Nous sommes le 3 mars au sommaire Haïti. Après l'impressionnante mobilisation populaire de dimanche dernier un peu partout dans le pays contre le président Jovenel Moïse, comment capitaliser cette démonstration de force? C'est la question que se posent les organisateurs de la manifestation que vous entendrez. À la une également, en Bolivie, un accident a causé la mort d'au moins 6 étudiants dans une université près de La Paz. Reportage à suivre aux États-Unis, en Louisiane, dans un endroit peuplé d'Afro-Américains et appelé l'allée du cancer, car 150 industries pétrochimiques y sont implantées. Dans le journal des Outre-mer, avec vous, Benoît Ferrand, nous serons notamment aujourd'hui en Guadeloupe.
Avec cette nouvelle illustration du vieil adage, quand on croit que c'est fini, ça recommence. En Guadeloupe, en effet, le couvre-feu sera de retour dès ce dimanche.
Rendez-vous avec vous dans une quinzaine de minutes. Et puis, nous ferons également un détour par la Jamaïque, où un des membres fondateurs des Wailers, Bunny Wailer, s'est éteint hier à Kingston. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
En Haïti, que faire après les manifestations citoyennes qui ont rassemblé des milliers de personnes? C'était dimanche à Port-au-Prince, mais aussi dans plusieurs autres villes de province. Manifestations contre le président Jovenel Moïse et puis aussi contre l'insécurité grandissante dans le pays, notamment avec la recrudescence des enlèvements. Alors après ces rassemblements du 28 février, les organisations de la société civile veulent capitaliser l'ampleur de la mobilisation sans ouvrir totalement l'espace de dialogue, comme nous l'a relevé notre correspondante en Haïti, Amélie Baron.
La mobilisation qui a rassemblé des milliers de personnes le 28 février est un succès pour ses organisateurs. Aujourd'hui, ils réfléchissent aux suites à donner à ce mouvement, comme l'explique Gédéon Jean, directeur du Centre d'analyse et de recherche en droits humains.
On pense à une autre activité de mobilisation pour la fin de ce mois, puisque par exemple, le 29 mars, ce sera l'anniversaire de la Constitution. Mais et parallèlement, on travaille sur d'autres paramètres un peu plus politiques, puisque le mandat du président arrive à terme. Donc nous, il faut que nous ayons vraiment une proposition politique beaucoup plus concrète. Nous essayons de créer une passerelle pour discuter avec les partis politiques, puisque nous ne pouvons pas agir en lieu place politique, certes, en tant que société civile.
Ouvrir aujourd'hui le cercle des échanges à la classe politique, oui, mais pas à tous. Le parti PHTK au pouvoir n'a pas encore été approché.
Non, pour le moment, on n'a pas encore contacté le PHTK en tant que parti politique. C'est vrai que c'est un acteur à part entière de la crise, mais nous autres, de la société civile, ce que nous essayons de faire d'abord, c'est de renforcer cette structure au niveau de la société civile et de discuter avec les partis politiques de l'opposition afin de trouver une solution concertée, mais surtout une solution innovante. Donc, pour le moment, avec le PHTK, non.
Pour les organisateurs des manifestations citoyennes, il est également impossible de discuter avec les autorités en place.
Le gouvernement n'a pas de légitimité. Le gouvernement n'est pas constitutionnel. Donc, on ne peut pas dialoguer avec un président qui n'accepte pas que son mandat arrive à terme, qui institue, si vous voulez, une dictature dans le pays. Donc, en termes de postulat, il faut que le président admette que le mandat arrive à terme. Il faut que le corps groupe également, la coopération internationale d'une manière générale, admette que le mandat présidentiel, constitutionnel, prend fin le 7 février 2021. Maintenant, de là, on pourra discuter. Mais le président Jovenel Moïse n'est ni constitutionnel, ni légitime, ni légal. Donc, on ne peut pas discuter avec M. Jovenel Moïse en tant que président.
Pour sortir de la crise, les autorités ont annoncé un calendrier électoral chargé avec un référendum constitutionnel en juin, puis le premier tour des législatives et présidentielles en septembre. En l'état, cet agenda est rejeté par les opposants au pouvoir.
Et les élections, c'est important puisque nous sommes dans une dynamique démocratique, nous sommes pour les élections, mais il faut qu'il y ait des conditions appropriées. Donc du coup, on comprend que la marche historique du 28 février a été simplement le référendum. C'est-à-dire que là où la population a dit, eh bien non, nous ne voulons pas d'élection dans ces conditions-là, nous ne voulons pas de référendum, nous ne voulons pas changer la Constitution, mais nous voulons de préférence le respect de la Constitution.
Dans cette crise politique dans laquelle Haïti est plongée, chacun campe sur ses positions et aucune institution ne semble vouloir ou pouvoir encore s'ériger en arbitre. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
RFI,
La radio del mundo.
Place à présent à la revue de presse des Amériques. Nous sommes avec vous, Marie-Normand, bonjour.
Et bonjour Adrien.
Et tout d'abord, ce drame en Bolivie qui est à la une de la presse.
Oui, tragédie à l'UPEA, titre par exemple Paris Nacieté. L'UPEA, c'est l'université publique d'El Alto, sur les hauteurs de la capitale, La Paz. Au moins 6 étudiants sont morts hier après avoir chuté du 4e étage lorsqu'une rambarde a cédé sous le poids de 150 étudiants au moins qui tentaient d'entrer dans une salle. L'enquête a commencé pour connaître les degrés de responsabilité de ceux qui ont donné l'ordre d'ouvrir les portes de la fac alors que les rassemblements de personnes sont interdits à cause de la pandémie, note La Razón. Établir la responsabilité aussi de ceux qui ont organisé l'événement. Les étudiants avaient été convoqués à une assemblée qualifié d'obligatoire. Pour l'heure, 3 agents de sécurité ont été arrêtés, nous dit Los Tiempos, et le recteur sera également appelé à témoigner.
Place à l'actualité aux États-Unis à présent, où Joe Biden essuie un premier revers dans le processus de confirmation de son administration par le Sénat. Sa candidate à la direction du budget de la Maison-Blanche, Marie, retire sa candidature et c'était attendu.
Oui, Neera Tanden aurait été la première femme d'origine indienne à ce poste, rappelle le Washington Post. Mais elle a fait face à l'opposition d'élus des deux partis, républicains et démocrates, en cause d'anciens postes sur les réseaux sociaux attaquant les élus républicains au Congrès. Et les présidents, lors de leur premier mandat, sont généralement confrontés à une défaite, au moins sur un poste de leur cabinet. Et Biden n'a pas fait exception, résume le journal. Le retrait de Neera Tanden annonce en tout cas d'autres batailles à venir au Sénat. La nécessité pour Joe Biden de se mettre dans la poche à la fois l'aile gauche du Parti démocrate comme les républicains modérés au Sénat pour faire avancer les dossiers.
Autre sujet en une de la presse américaine, plus de masque obligatoire au Texas à partir de mercredi prochain, Marie. Le gouverneur de cet État du Sud lève les restrictions liées à la pandémie de coronavirus.
Et il n'est pas le seul, explique le New York Times. Plusieurs États réfléchissent en ce moment à des assouplissements face à la baisse des cas de Covid-19. À Chicago, par exemple, des dizaines de milliers d'enfants sont retournés à l'école cette semaine, tandis que les parcs, les terrains de jeux enneigés de la ville et qui étaient fermés depuis mars dernier ont rouvert. Le Mississippi a aussi mis fin à son obligation de porter le masque dès aujourd'hui, explique le média pro-démocrate The Hill. Au Massachusetts, les restaurants peuvent désormais fonctionner à pleine capacité. Plus de limitations concernant les rassemblements en Caroline du Sud. L'administration Biden avait pourtant exhorté les États à ne pas lever les restrictions trop tôt, mais Joe Biden a jusqu'à présent refusé de nommer ouvertement, publiquement, les gouverneurs qui ne suivent pas cette demande de l'État fédéral, explique The Hill. Le Texas Tribune rappelle en tout cas que les autorités sanitaires locales recommandent toujours de porter un masque, même si l'obligation d'en porter un est levée par le gouverneur.
RFI à New York, il est 8h18. Reportage aux États-Unis à présent, où cela fait maintenant un an que le pays a enregistré son premier décès dû au coronavirus. Et l'une des communautés les plus affectées est celle des Asiatiques, touchés à la fois par des difficultés économiques, touchés également par le racisme. Les agressions violentes à leur égard se multiplient, notamment à New York. Reportage de Lubna Anaki dans le quartier de Chinatown.
Dans les rues de Chinatown ce soir, Yin Kong ne passe pas inaperçue. Elle porte une lanterne géante, sa façon à elle et à ses amis artistes de fêter le Festival des Lanternes, une des festivités du Nouvel An chinois.
On est tous cette lumière. Chacun à notre façon, on a apporté de la lumière à notre communauté. Pas juste comme symbole d'espoir, mais d'énergie.
Un peu plus loin, dans le magasin de thé et d'objets traditionnels de ses parents, Alice Liu a mis la musique à fond pour attirer les très rares clients. Depuis ce matin, elle en a eu à peine une dizaine. En temps normal, le Nouvel An chinois est la période la plus frénétique pour le quartier.
L'année dernière, on a eu un Nouvel An très calme, mais cette année, c'est encore pire. Il n'y a pas eu de parade et ça a vraiment diminué le nombre de visiteurs dans le quartier.
Un Chinatown vidé de ses touristes, de ses visiteurs, Alice Liu raconte que tout Tout a commencé bien avant que New York ne soit durement touché par le coronavirus, bien avant la mise en place des restrictions.
Les gens avaient peur de venir à Chinatown. Ils pensaient qu'ils pourraient attraper le coronavirus en mangeant chinois. Ils pensaient que venir ici, rencontrer des Chinois, parler à des Chinois, les contaminerait au coronavirus.
Alice Liu et sa famille possèdent des magasins à Chinatown depuis une trentaine d'années. En 2020, ils ont perdu plus de 40% de leur chiffre d'affaires.
Au cours de l'année passée, on a dû fermer 3 de nos magasins à cause des conséquences économiques du Covid.
Et ils ne sont pas les seuls. Il suffit de se balader dans le quartier pour se rendre compte du nombre de magasins, commerces et restaurants fermés. Cette semaine, l'un des plus célèbres et plus anciens établissements de dumplings a annoncé qu'il mettait la clé sous la porte. Mais en plus des conséquences économiques, Chinatown et ses habitants doivent aussi faire face à la violence. Maggie en a été victime il y a quelques semaines dans le métro lorsqu'un homme s'en est pris à elle.
Il m'a suivi jusqu'à mon siège. Il a commencé à me cracher dessus et à crier des insultes raciales. Que je devrais repartir en Chine, que c'est nous qui avons apporté le virus ici. On entend parler de ces incidents aux informations et là, ça m'arrivait à moi.
À New York, les agressions envers les Américains asiatiques ont été multipliées par 9 depuis le début de l'épidémie. Une tendance enregistrée aussi ailleurs dans le pays. Pour Chris Kwok, qui vient de publier un rapport sur les violences envers les Asiatiques aux États-Unis, le discours politique a aussi joué un rôle indéniable.
Trump a vraiment utilisé ce discours anti-Chine, mais en faisant ça, il a encouragé le sentiment anti-asiatique, parce que le président disait en quelque sorte « Allez-y, ce sont eux les responsables ».
Chris Kwok fait partie d'un groupe qui a récemment appelé les autorités à agir contre ces violences et à apporter une aide importante aux quartiers affectés par l'épidémie comme Chinatown pour éviter qu'ils disparaissent.
Chinatown a vraiment besoin d'être sauvé. Ils ont pris la crise de plein fouet, c'est vraiment dur. Alors que ce quartier est un joyau à New York. Quand les gens viennent visiter New York, ils passent forcément par Chinatown et c'est un quartier historique important.
Ces dernières semaines, de nombreuses campagnes de sensibilisation ont été lancées. Des manifestations ont eu lieu pour dénoncer les violences dont sont victimes les Américains asiatiques. Des élus, des célébrités y ont pris part. À New York, une unité spéciale a été mise en place par la NYPD et le maire de la ville a organisé une opération de communication au cours de laquelle il est allé déjeuner dans un restaurant de Chinatown pour encourager les gens à revenir dans le quartier. Loubna Anaki, New York, RFI.
À l'écoute de Radio France Internationale, nous restons aux États-Unis pour la suite de votre revue de presse, Marie Normand, avec cette vente bientôt organisée par les Boy Scouts, une vente pour payer les demandes de dommages et intérêts de victimes d'abus sexuels.
Oui, face à des dizaines de milliers de plaintes, 92 000, précise le New York Times, l'organisation criblée de dettes est prête à faire l'impensable, vendre sa collection de portraits réalisés par l'artiste Norman Rockwell, probablement l'illustrateur américain le plus célèbre au monde, des dizaines de portraits de jeunes qui évoquent la vertu, la bravoure, l'Amérique et qui ont été commandés à l'artiste pendant 6 décennies. La vente permettrait de récolter près de 300 millions de dollars pour alimenter un fonds pour les victimes d'abus sexuels.
Et puis enfin, bientôt un monument au Capitole à Washington en l'honneur de Ruth Bader Ginsburg.
Peut-être, en tout cas, c'est le projet de loi déposé par les élus démocrates à la Chambre et au Sénat, Dundi The Hill aujourd'hui. La juge à la Cour suprême, connue sous la acronyme RBG, est décédée en septembre dernier. Elle était devenue une icône libérale pendant ses 27 ans au sein de la plus haute juridiction américaine.
Merci Marie. Marie Normand pour la revue de presse des Amériques aux États-Unis à présent. C'est un axe surnommé tristement l'allée du cancer du fait de la prédominance de maladies dues à la pollution. C'est entre la Nouvelle-Orléans et Baton Rouge. Nous sommes en Louisiane, un endroit habité en majorité par des Afro-Américains. Et c'est du racisme environnemental, dénoncent des experts des droits de l'homme aux Nations Unies. Ils pointent la situation dans un communiqué qui a été publié hier. Reportage RFI, Anne Corpé.
Vous voyez ces signes sur le bord de la route? Formosa serait une peine de mort pour St. James. On essaye d'arrêter le projet d'usine.
Sharon Lavigne nous emmène sur les routes de sa commune où une usine de plastique doit être construite. La zone est déjà surpolluée du fait de la présence de nombreuses usines pétrochimiques et les habitants payent un lourd tribut à cet environnement.
Cette femme-là a le cancer, sa fille aussi. Il y a beaucoup de grossesses qui finissent mal. Les fausses couches sont courantes. Ici, on est sur Bird Lane. Il y a une usine de chaque côté de la rue. Mon amie Géraldine vivait là. Elle est morte. La dame qui vit là a eu ses deux jambes amputées. Croyez-moi, personne n'est en bonne santé ici.
Dans son laboratoire, Wilma Subra, chimiste, confirme les niveaux d'exposition de la population à la pollution dépassent l'entendement. La présence de chloroprène dans l'air près d'une usine de néoprène est par exemple 337 fois supérieure à la norme sanitaire reconnue par l'Agence fédérale de l'environnement. Ce n'est pas l'allée du cancer, dit Sharon Levigne. C'est le couloir de la mort. Anne Corpet à Saint James en Louisiane, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand. Benoît, vous nous le disiez, quand on croit que c'est fini, ça recommence en Guadeloupe. Le couvre-feu sera de retour dès ce dimanche.
Oui, bonjour Adrien. Ça s'en va et ça revient, comme dans la chanson, mais une longue, très très longue chanson qui durerait depuis bientôt presque un an. 308 cas de Covid-19 sur 7 jours en Guadeloupe, 3 décès supplémentaires et donc le couvre-feu de 22h à 6h du matin. C'est ce qu'ont annoncé hier après-midi le préfet de la Guadeloupe et la directrice de l'Agence régionale de santé. Franck Aristide.
Plus personne ne pourra circuler sauf pour des motifs impérieux. Des discussions sont en cours en ce moment pour trouver des solutions pour permettre aux restaurants de tout de même assurer un service le soir. Mais le sport va lui aussi trinquer. Retour au huis clos. Les salles devront fermer à compter de lundi 8 mars et les compétitions dans les stades, gymnases, terrains de foot n'accueilleront plus du tout de spectateurs également à compter de cette date lundi. Les autres dispositifs restent en vigueur. Pas de pique-nique sur les plages, fermeture des centres commerciaux de type Millénis ou Destreland, pas de rassemblement de plus de 6 personnes, le télétravail à privilégier pour les employeurs et tout ce que nous connaissions déjà. L'ensemble de ces mesures sera valable pour au moins 2 semaines, mais le préfet a d'ores et déjà annoncé la couleur. Si la situation ne s'améliore pas, il pourrait revoir les horaires du couvre-feu et le rendre encore plus contraignant.
Rendez-vous donc à la prochaine, comme on dit. Direction la Martinique maintenant avec les tests pour mesurer le taux de chlordécone dans le sang. Eh bien, ces tests seront gratuits pour toute la population de la Martinique, mais pas dans l'immédiat. C'est ce qui a été précisé par les autorités sanitaires hier après-midi. 1000 personnes particulièrement exposées, comme les ouvriers agricoles ou les femmes enceintes ou en âge de procréer, restent pour le moment prioritaires. Gérard Talmincy est le responsable département santé environnementale à l'ARS Martinique.
Dans les prochaines semaines, nous enverrons ce dispositif aux femmes en âge de procréer et à leurs conjoints. C'est-à-dire que toute personne en désir d'enfant avec un projet de grossesse, même si c'est un projet lointain, de manière à pouvoir baisser également son imprégnation et être, si possible, à zéro chlordécone au moment de la survenue de la grossesse. Et puis pour la population générale, toujours dans un souci de pouvoir accueillir ces personnes dans le cadre des dispositifs de prévention que nous mettons en place, ils pourront avoir accès au dosage de la chlordéconémie dans les semaines qui vont venir. L'ensemble des Martiniquais pourront à terme avoir accès à ce dosage.
Le plan Chlordécone 4 est d'ailleurs annoncé et précisé ce matin en Martinique. Bon après-midi Adrien, à demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand et à demain.
RFI à Kingston, 96.5 FM.
De la musique pour refermer ce journal et du reggae. Après l'annonce du décès d'une des légendes jamaïcaines du reggae, Bunny Waller. Il est décédé, il s'est éteint hier à l'âge de 73 ans à Kingston, en Jamaïque. On termine donc ce journal en lui rendant hommage. Bonne fin de journée à toutes et à tous.
Life is really worth. It's not all that glitter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on,
get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
l'un des fondateurs des Wailers, Bunny Wailer, qui s'est éteint hier à l'âge de 73 ans. C'est la fin de ce journal des Amériques. Merci à vous de l'avoir écouté, réalisé par Laurie Plisson, rédaction en chef Sylvie Noël. Bonne journée à toutes et à tous.
Tout à l'heure sur RFI, vous m'en